Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va à Avignon. On va à Avignon un petit peu en avance. Ce sera bien entendu à partir du 6 juillet. Et à Avignon, on va à l'Alibi Théâtre qui se trouve rue des Teinturiers. Vous pouvez d'ores et déjà noter l'adresse pour voir exiler Salomé. Alors, Salomé, on en a déjà entendu parler. On va aller un petit peu plus loin parce que c'est un projet particulier qui a énormément de créativité. Et donc, pour en parler, j'ai l'acteur et metteur en scène, Giancarlo Ciarapica, qui est en face de moi, bonjour.
Bonjour.
Et le compositeur, André Stern, qui est à mes côtés, bonjour. Merci d'être avec nous. Exilé Salomé, alors pour aller, on va dire que j'en fais partie en plus, les plus grands incultes, qui est Salomé? Qui est Salomé? La seule chose qu'on imagine, nous, c'est... moi, je suis plus proche de... J'ai une vision de Strauss qui passe, j'ai une vision de Flaubert, il y a une vision... Mais le personnage au départ...
Alors le personnage au départ, ça dépend, il y a celui que l'on connaît, celui que l'on pense connaître, puis il y a celui que Salomé a pu être. Celui que l'on pense connaître, c'est cette jeune femme qui a dansé, qui s'est dévêtue, qui a fait probablement le premier striptease de l'histoire, et en contrepartie de quoi elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on en connaît, c'est elle qui a fait fantasmer beaucoup d'auteurs, beaucoup de peintres, beaucoup de musiciens, c'est un des grands thèmes et un des grands mythes. C'est comme ça que on la connaît, c'est comme ça que nous l'avons rencontrée en se disant quand même il y a quelque chose derrière qui va nous intéresser. C'est là qu'entre en scène le metteur en scène qui est l'auteur de la pièce et qui a effectué une recherche effectivement pour trouver quelle était la femme Salomé.
Parce qu'au-delà du mythe, et je me tourne vers l'auteur, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec le mythe, c'est-à-dire que tout ça n'est pas, ne serait pas véridique, et bien entendu, autour du mythe, il se passe de choses. Donc vous avez fouillé un petit peu dans tout ça.
Tout à fait, c'est d'ailleurs qu'il dit aussi autre chose que la première apparence qu'il veut bien donner, et même en dehors de différences de sensibilité, on a des historiens qui se sont penchés assez récemment sur l'histoire de Salomé, et on se rend compte que Salomé n'est pas celle que certaines personnes auraient voulu nous faire croire qu'elle était.
Alors dans les pistes qu'on a, elle serait quoi alors cette Salomé?
Alors tout d'abord, Salomé peut-être n'aurait-elle jamais existé. Ce serait que l'apparence d'Hérodiade, sa mère, qui lorsqu'elle dansait se vêtait comme une jeune fille, une jeune danseuse, et France un peu juvénile ou sûrement outrancier à l'époque, très maquillée, très costumée, qui a donné naissance à l'idée d'une Salomé en chair et en os. Ensuite on trouve d'autres personnes qui pensent que Salomé à l'époque, si elle avait existé, puisqu'Hérodiade a eu une fille, aurait eu 3 ans. Donc à 3 ans on pouvait effectivement...
Pour la danse de cette voile,
hein, c'était difficile. Hein. Et voilà, et on... Par exemple, ce sont les cas de figure les plus importants.
Donc elle n'aurait pas dansé, ça aurait peut-être pas été elle.
Enfin, voilà, et nombreux sont les gens qui disent que de toute façon, si elle avait existé, elle n'aurait probablement pas dansé, puisqu'à l'époque, elle avait un petit peu, on va dire, la réputation d'une princesse, et qu'elle n'aurait pas pu faire ça.
Du son rang, et qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans ce personnage, cette contradiction entre le mythe et une véracité supposée, enfin des pistes de véracité des historiens?
Oui, effectivement, moi je suis très sensible aux réputations et à la douleur que certaines réputations peuvent faire subir à certaines personnes. Et on est parti du principe qu'elle errait depuis 2000 ans parce qu'elle ne savait pas qui elle était, elle ne savait pas si elle avait existé, et elle en voulait beaucoup aux gens comme Huysmans, Flaubert... ou Oscar Wilde, qui ont inventé une Salomé qui, de toute façon, on le sait, n'était pas celle de l'époque. Et donc, cette réputation, et à travers le mythe aussi, c'est les grandes idées qui tiennent l'humanité un petit peu debout, et qui sont d'ailleurs souvent plus forts que l'histoire véridique des personnages quand ils ont existé.
Donc le personnage vient un peu régler ses comptes avec tous les mythes qui ont été
avec
créés
tout le monde,
autour.
Oui, elle règle ses comptes avec ses parents, avec Dieu, avec la société d'à l'époque, avec les hommes d'aujourd'hui, parce que parallèlement à ça, c'est un très long cri de femme aussi, puisqu'à travers Salomé, sur 2000 ans, on envisage un petit peu toute la difficulté d'être pour une femme dans nos sociétés.
Et cette femme, du coup, cette Salomé, la vôtre, elle est comment, du coup ?
Elle est comment ? Elle est perdue. Au départ, elle naît, c'est une forme de chaos, tant la musique, la mise en scène, le jeu de la comédienne le disent. Elle est complètement perdue, elle se pose, fait 2000 ans qu'elle se pose des questions, à chaque fois qu'elle a cru trouver une réponse, elle revient à la case départ. Et elle va aller, à force de se plaindre, elle va rentrer dans une espèce d'incantation qui va l'amener une espèce de transe, et elle va finir par entrer, mais sans s'en rendre compte, en contact avec Jean-Baptiste, qui est donc le symbole de la lumière, donc symbole de la connaissance, symbole...
Voilà. Le fameux Jean-Baptiste
à qui
elle aura fait couper la tête, oui, effectivement. Un crime d'Hérode qui est quand même assez sanglant,
assez terrible.
Donc, quand on a cette idée, quand on est face à ce mythe-là, à ces contradictions avec la véracité, quand on décide de faire traverser l'histoire à cette femme, comment on aborde l'écriture ? Quel type d'écriture vous avez choisi d'utiliser pour rendre cette femme
grande question, parce qu'en fait l'écriture, elle se fait presque à son insu. Quand on écrit, j'admire les auteurs qui savent comment écrire.
Les moyens qu'ils utilisent.
Voilà, non, on sait, c'est un projet qui nous a pris 2 ans, entre l'envie de démarrer le projet, toutes les recherches historiques, ça a pris 1 an et demi. J'ai dû relire certains nombres de textes bibliques, les anciens évangiles, les nouveaux. Et voilà, c'est là aussi où, par exemple, on se rend compte que dans la Bible, elle n'est pas nommée. Salomé, on découvre son nom 150 ans plus tard. C'est Flavius Joseph, un historien.
Oui, historien.
Et puis après, c'est l'état de grâce. On met 1 an et demi à faire monter l'état de grâce, et après, ça s'écrit tout seul.
Une fois que ça a bien mûri,
voilà,
ça s'est ingurgité, digéré, et ça revient.
On le rend tout seul.
Et puis, on va en parler, parce que je vais me retourner vers le compositeur. Il y a l'intervention de la musique, et pas n'importe quelle musique. Il s'agit vraiment de créer quelque chose de nouveau. On a un travail de musique. Est-ce qu'on peut-être écouter et entendre quelques mots de la pièce? On écoute cet extrait et on parle justement, en ayant entendu cette musique, de la musique avec André Stern.
L'amant luise de mon brillant est-il même d'un sentiment solennel, se consacrant à la glorification de notre amour. Inhumer ce corps qui n'est pas le mien, embaumer ce ventre et ces seins qui ne m'appartiennent pas. Laissez-moi devenir cadavre. Devenir poussière et je serai condamnée à exhiber ce que l'on veut que je sois. N'entendez-vous pas mon sang crier vers le ciel de m'être à moi-même proprement inconnue? Ceci n'est pas mon corps.
N'est pas mon corps, dit-elle, hein. Ceci n'est pas mon mythe, on pourrait dire aussi.
Tout à fait.
Alors, à l'oreille comme ça, le premier auditeur venu va dire « Ah tiens, c'est joli, c'est de la guitare. » Et là, je vois le sourire s'afficher sur le visage d'André Stern parce que, ben, pas tout à fait.
C'est de la guitare à 7 cordes, pour commencer par les spécialités de cet instrument. C'est un instrument que j'ai construit spécifiquement. J'ai une formation de luthier, j'ai donc pu, j'ai le privilège de construire un instrument spécifique à ce spectacle. C'est un instrument qui est fabriqué en bois d'olivier.
Qui n'est pas anodin.
Qui n'est pas anodin. D'abord, ça a des caractéristiques sonores que j'avais choisies très spécifiquement, mais il s'avère que c'est un bois qui est lié à la paix. La paix, c'est Shalom. Et Salomé, vous n'ignorez pas qu'on en est proche.
On en est proche. Il y a de l'étymologie qui...
Voilà. Nous aimons beaucoup ça. On travaille souvent comme ça. J'ai donc construit un instrument en bois d'olivier à 7 cordes. 7 est aussi un chiffre particulier. Les 7 voiles de Salomé, qui sont une invention d'Oscar Wilde, en sont un exemple. Mais c'était pas seulement une idée théorique. C'était parce qu'on avait besoin d'aller dans le grave, d'aller dans les basses de l'instrument. Ensuite, il y a une certaine manière de travailler que nous développons depuis longtemps, car ça fait très longtemps, ça fait plus de 15, presque 15 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a donc développé cette manière d'accompagner le théâtre par la musique ou la musique par le théâtre. Et je tiens beaucoup à cette notion-là de réciprocité. Et ensuite, parce que là, dans cet extrait qu'on vient d'entendre précisément, je ne fais pas appel à des techniques de jeu spécifiques. Ça, je les réserve, c'est une surprise pour ceux qui viendront voir et entendre le spectacle. Mais effectivement, je fais appel à toutes les techniques à moi connues afin de conférer à cette musique des couleurs, des timbres, des ambiances, des sonorités particulières que l'on attribuera probablement à la guitare en le sachant ou pas, là n'est pas l'important.
Outre le plaisir du créateur, qu'est-ce qui amène dramatiquement dans le texte, dans la pièce, dans ce que vous voulez rendre sur scène, la nécessité d'inventer des techniques, d'inventer une musique qui n'existerait pas?
C'est la nécessité d'accompagner un texte, d'accompagner un dire qui n'existe pas, la nécessité de ne pas faire naître de hiatus, et la nécessité d'obtenir un ensemble aussi cohérent qu'émouvant et qui est en plus de tout ça, en plus du côté esthétique et du côté textuel, qui est aussi un sens et qui est quelque chose à dire aussi bien musicalement que le texte. Voilà, j'ai une esthétique qui est particulière, liée à mes origines, à mon travail, à ma vision, à mon oreille sur la musique.
On parle d'origine, il y a des consonances dans ce qu'on vient d'entendre, des consonances qui très clairement ramènent sur une rive de la Méditerranée d'une certaine manière, enfin en tout cas,
oui,
elle peut ramener vers l'autre océan de l'autre côté, elle pourrait être plus en Amérique du Sud, mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de... on est loin du nordique, je veux dire qu'on est vraiment proche de quelque chose qui...
On est parfaitement oriental, osons le mot,
voilà.
Dans l'extrait que nous entendons, qu'on entendait là particulièrement, mais c'est de toute manière une chose que je revendique, et puis les racines hébraïques de la musique que je suis allé chercher en l'occurrence sont aussi totalement assumées, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a ce travail en partie là-dedans.
Je vais me retourner encore vers l'auteur, et surtout là pour le coup le metteur en scène. On parlait des 7 voiles, des 7 cordes de cette guitare. C'est symbolique, ces chiffres. Ils ont aussi animé la construction de la mise en scène.
Oui, tout à fait, puisque et déjà de l'écriture, puisque c'est écrit en 3 jours, 3 nuits et une aube. Et il se trouve que l'aube suit le dernier jour, ce qui a priori est impossible. Mais quand on va vers la lumière, à un moment donné, on ne passe plus les étapes des ténèbres. Donc effectivement, on a une aube qui suit. Voilà, là on a encore 7 chapitres en fait pour l'écriture.
Déconstruire le mythe en utilisant les symboles, en utilisant l'imagerie de symbolisme biblique, en tout cas de l'époque biblique ou évangélique, la musique et sa créativité, tout ça permet donc une traversée du temps. C'est un peu l'idée de cette Salomé qui traverse le temps et musicalement avec une création contemporaine et au niveau du texte. C'est Exilé Salomé, c'est à l'Alibi Théâtre qui vous a gracieusement offert son lieu parce qu'il croyait en votre projet pour la période d'Avignon. C'est donc du 6 au 28 juillet pour ceux qui ne connaissent pas les dates du Festival d'Avignon, et c'est tous les soirs à 22h30 et l'Alibi Théâtre est au 27 rue des Teinturiers à Avignon. Un site... Pour terminer,
le site c'est www.exilésalomé.com. Exilé Salomé en un seul mot, et sans les accents. Vous nous trouverez sur Internet.
Et bien sûr.
Voilà, vous nous trouverez sur Google de toute manière. Et vous trouverez toutes les informations sur le spectacle, les lieux, la comédienne, Pauline Latournerie, le compositeur et le metteur en scène auteur.
Merci André Stern, merci Giancarlo Ciarapica, je vais y arriver, je savais que je me tromperais. À très bientôt.
Merci à vous.